It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant thune podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Une reconversion, c'est un investissement. Qui dit investissement dit forcément dépenses à un moment donné, dépenses en temps, on va y revenir, en argent potentiellement, mais en même temps c'est une dépense de laquelle on attend un retour justement sur investissement.
Le changement de vie. Dans la presse, on appelle ça un marronnier, c'est-à-dire un sujet qui revient tous les ans, à peu près à la même date. Alors là, je suis pile dedans, puisque les grandes vacances sont finies et qu'on se demande si on ne devrait pas tout plaquer et ouvrir une paillote à Tinos. Je ne vous apprends rien, le Covid a accéléré tout ça. On veut changer de job, de ville, de région, oublier son burn-out en rejoignant la grande démission ou devenir digital nomade en Bolivie. Mais tous les récits vertueux de ces reconversions réussies ne racontent jamais comment ça se passe niveau thune. Où trouver des ressources quand notre conjoint n'est pas blindé? Peut-on le faire à tout moment de sa vie? C'est quoi les aides? Bref, combien ça coûte de changer de vie? Pour en parler, je reçois Clara Deletraz de Switch Collective qui a vu passer plusieurs milliers de candidats au changement. Bonne écoute! Bonjour Clara Deletraz.
Bonjour Laurence.
Tu es la cofondatrice et la directrice aujourd'hui de Switch Collective.
Ouais.
Donc toi, ce que tu proposes avec Switch, c'est un programme de 2 mois qui est basé sur le collectif et qui vise à redonner du sens à sa vie professionnelle. Et on peut le faire à distance ou en présentiel, comme
Tout
on dit.
Fait.
Alors la reconversion... C'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité. J'ai l'impression que depuis 2 ans, le Covid a encore sensiblement augmenté le nombre de Français qui veulent se reconvertir.
En 2020, justement, l'année du Covid, on a eu plus 80% de demandes. Donc y a un vrai mouvement d'accélération et un besoin qui n'a jamais été aussi fort.
Tu connais le pourcentage de la population active qui a envie de changer de boulot ?
Alors, il y a eu plein d'études qui ont été faites et les chiffres varient, mais souvent, ce qu'on lit, c'est 50-60%, quelque chose comme ça, qui a envie de changer de boulot, de changer de vie. Donc, c'est beaucoup.
Et avec une tranche d'âge en particulier
Nous, ça donne quoi? La moyenne d'âge, c'est 36 ans. Et on a 15% de moins de 30 ans, 45% de 30-38 ans, donc tu vois, ça reste quand même le gros, 20% de 38-45 et 20% de plus de 45 ans.
C'est plutôt des femmes ?
Plutôt effectivement des femmes à 70%, enfin ça dépend, 60-70%. Non pas que le problème soit genré, c'est juste qu'on sent qu'il y a sans doute un biais un peu sociologique, psychologique des hommes qui ont peut-être plus de mal à se faire accompagner dans une démarche, une réflexion comme ça.
C'est quoi le profil socio-professionnel des gens qui viennent suivre votre programme ?
Alors aujourd'hui, c'est quand même clairement plutôt des gens qui ont un profil socio-professionnel assez, assez élevé, en tout cas qui ont un certain niveau d'études. On a 71% de bac plus 5 et plus, 18% de bac plus 3-4 et 11% de sans bac ou juste bac et bac plus 1. Après, c'est en cours de diversification. On l'a vu ces 2-3 dernières années, voilà, les profils se diversifient beaucoup. Et en tout cas, il n'y a pas du tout un type de métier. C'est vraiment tout métier confondu. Tu as aussi bien des ingénieurs, des gens qui bossent dans le marketing, des hôtesses de l'air, des gens de la restauration. C'est hyper varié de ce point de vue-là.
En général, quand on souhaite se reconvertir, c'est pour monter sa boîte ?
Alors, non. Là encore, pour te donner quelques chiffres, on a 50% des gens qui switchent, donc qui changent de job en restant salariés. 35% qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou le freelancing, donc voilà, c'est 35%, un tiers quoi à peu près, et 11%, et ça c'est un chiffre qui a vraiment été en augmentation là ces deux dernières années, qui changent de ville sans forcément changer de job, tu vois, donc il y a aussi un effet changement de vie au-delà du changement professionnel, et parfois le changement passe plus par un changement de lieu de vie qu'un changement même de travail.
Ils peuvent suivre votre programme et réaliser qu'en fait, le problème, c'était plutôt l'environnement que leur job.
Ouais, exactement. Et ça, c'est hyper important. C'est réaliser, c'est faire le tri dans ce qui va pas pour pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parfois, ce qui va pas, c'est vraiment effectivement le contenu du job, le métier en tant que tel. Et puis parfois, on se rend compte que c'est effectivement l'environnement de travail ou l'environnement de vie. Parfois, on peut même se rendre compte aussi que c'est son rapport au travail qui a à remettre en question quand on y donne trop d'importance ou voilà. Donc c'est effectivement travailler tous ces éléments-là pour être sûr de prendre les bonnes décisions.
Et l'argent dans tout ça ? C'est un sujet qui est souvent abordé lors de votre programme.
Les deux gros freins qui ressortent pour quelqu'un qui se pose des questions, c'est un, en fait, je ne sais pas ce que je veux faire. Et deux, c'est vraiment le frein financier qui ressort. C'est la plus grosse peur dans le cadre d'un projet de switch. J'étais même tombée sur une étude qui m'avait interpellée. C'est une étude TNS qui était sortie il y a quelques années qui disait qu'il y a 60% des Français qui avaient peur de finir à la rue un jour. Donc tu vois, cette question de l'argent, même de manière globale, elle est quand même vraiment au cœur de nos vies, quoi.
Alors, comment vous la traitez ?
Comment on la traite ? Alors, ce qu'on observe là aussi, c'est que le frein financier face à la reconversion, c'est un mélange, en gros, à 50% de contraintes réelles qu'il faut adresser et qu'il faut surtout pas, évidemment, minimiser, de se dire comment concrètement je vais continuer à payer mon loyer, à faire vivre ma famille, etc., etc. Et c'est aussi à 50% des peurs et des croyances justement liées à l'argent qui peuvent brouiller la réflexion. Et tout le sujet, c'est d'arriver à faire le tri entre les deux.
Il y a des peurs et des croyances qui sont récurrentes.
Derrière la peur liée à l'argent, il y a des peurs souvent beaucoup plus universelles. C'est la peur du manque, c'est la peur de la perte, c'est la peur de finir à la rue, je le disais tout à l'heure. Et même quand tu tires le fil, c'est presque la peur de mourir qu'on retrouve derrière. Après, dans les croyances qu'on retrouve beaucoup et sur lesquelles on fait bosser, il y a la croyance que l'argent, c'est difficile à gagner, que l'argent, c'est compliqué, que avec l'argent, on peut se faire avoir, que l'argent fait pas le bonheur, que l'argent est suspect, corrompt, ou à l'inverse, l'argent, c'est ça qui donne de la valeur à ce qu'on fait, on a absolument besoin d'argent pour avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Voilà, donc il y a ces croyances-là, elles reviennent beaucoup. La croyance aussi autour du CDI, que c'est nécessaire d'avoir un CDI pour se sentir en sécurité. Ça, c'est des choses qui reviennent beaucoup.
Alors, comment vous travaillez là-dessus pour les casser un peu, les effriter un peu, ces croyances, si nécessaire ?
On remonte un peu dans la généalogie et on va voir ce qui se passe du côté de la famille, parce que c'est souvent là que, en fait, ces croyances, elles se construisent. Et ce qui se passe, hein, que, comme toujours dans ces cas-là, c'est que on hérite d'un certain nombre de croyances donc de nos familles, et puis on se met soit en mode reproduction, soit en rejet, en mode contre-pied. Mais dans tous les cas, on se retrouve dans un schéma dont on est souvent prisonnier. Et l'idée, c'est de se dire, de faire le tri, là, encore au milieu de tout ça, et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce que j'ai envie de laisser de côté. Donc du coup, à partir de là, comment on fait ? On fait se poser à nos participants en fait, des questions assez simples, en se demandant c'était quoi le rapport de mes parents, voire même de mes grands-parents à l'argent. Justement, est-ce qu'il y avait une connotation positive, négative ? C'est quoi les phrases que j'ai souvent entendues justement quand j'étais enfant ? Et est-ce qu'il y a eu des événements marquants aussi dans votre famille, je sais pas, un cambriolage, un vol, enfin moi je sais que je me suis rendu compte en faisant cet exercice sur moi-même que mes grands-parents qui étaient profs et qui avaient monté en fait une boîte de camps de vacances à côté, qui avaient une histoire de faillite, que ça avait beaucoup finalement marqué justement la psyché familiale, donc d'aller interroger justement cette histoire, même votre premier argent de poche, votre premier salaire, qu'est-ce que vous en avez fait, c'est vraiment d'aller interroger tout ce qui s'est passé avant vous et ensuite tout ce qui s'est passé dans votre histoire depuis que vous êtes enfant et qui a pu marquer votre rapport à l'argent.
Et est-ce qu'il y a des grandes prises de conscience à l'issue de cet exercice ?
Alors oui, c'est hyper intéressant parce que quand on fait faire l'exercice, on pose la question avant, après avoir fait l'exercice. On demande donc aux gens est-ce que vous pensez que le frein financier que vous avez, à combien de pourcents il est fait de contraintes réelles et de peur ou de projections plus subjectives. En général, en moyenne, les gens répondent c'est un problème qui est à 70% une contrainte réelle, très objective, etc. et à 30% lié à des peurs ou à... Et en général, après avoir fait cet exercice, ce travail-là, quand on repose la question, le rapport s'inverse presque. Donc oui, il y a des vraies prises de conscience. Et j'ajouterais, alors il y a peut-être un biais aussi, hein, c'est que comme je te disais tout à l'heure, on a 70% de femmes, et j'observe, je vis moi-même le fait que en tant que femme, aujourd'hui, le rapport à l'argent est aussi, je pense, quelque chose d'un peu plus complexe. On a été beaucoup moins éduqués sur ce sujet. On a aussi souvent plus de peur, plus de justement peur de pas être capable, peur de pas y arriver, peur parce que ça semble trop compliqué, peur parce que c'est trop éloigné de nous. Alors, les hommes vont avoir d'autres types de freins, parce que les hommes, on retrouve vraiment ce frein de « oui, mais alors moi, je suis censée assurer la sécurité, ma sécurité, et puis celle de ceux qui m'entourent. » Donc, c'est un autre type de frein et de biais psychologique, parce qu'évidemment, ça... Potentiellement, parfois, les hommes changent aussi un peu moins à cause de ça. Mais oui, il y a des prises de conscience qui peuvent être assez fortes, justement, quand on arrive à mettre en lumière des choses comme ça, quoi.
On va arriver au cœur du sujet. Est-ce qu'une reconversion, c'est forcément une baisse de revenus ?
Une reconversion, c'est un investissement. Qui dit investissement, dit forcément dépenses à un moment donné, dépenses en temps, on va y revenir, en argent potentiellement, mais en même temps c'est une dépense de laquelle on attend un retour justement sur investissement. C'est pas juste un coup d'épée dans l'eau comme ça, il y a un vrai retour sur investissement, évidemment en termes de qualité de vie, de bien-être, et ça c'est quelque chose qui a pas de prix. Parfois, aussi parce qu'éventuellement en changeant on peut gagner même plus qu'avant. C'est pas la majorité des cas quand même qu'on observe, mais voilà, je dirais que ça passe quand même souvent, au moins pour un temps, au moins pour une certaine période de transition, oui, par une diminution petite ou grande des revenus. En tout cas, je pense qu'il faut être prêt à le faire, et encore une fois, en même temps, à le faire dans les bonnes conditions et dans des conditions qui remettent pas en cause sa propre sécurité, parce qu'il ne s'agit pas de se mettre en danger non plus, loin de là. Mais oui, ça peut passer par là.
Est-ce que tu as pu extraire une moyenne de temps durant laquelle cette baisse de revenus était conséquente ?
Nous, tu vois, à la fin du programme Switch, on a 91% en gros des gens qui switchent dans les 12 à 18 mois. Et donc, ce qu'on observe, notamment quand il s'agit de switch un peu plus radicaux, un peu plus conséquents, c'est que pour pas prendre trop de risques, justement, c'est important de compter 18 mois et de se dire entre le moment où j'ai mon projet... il faut compter à peu près 18 mois. Comme par définition, si c'est une vraie reconversion, je me retrouve à être un peu débutant sur ce sujet. Et s'il faut que je reconstitue un capital de connaissances, de compétences, un réseau, puis qu'après je sois capable d'en vivre, ouais, compter 18 mois, c'est bien et c'est le minimum. Et voilà.
Donc, avoir au moins, quand on décide de se reconvertir, on va dire totalement, 18 mois d'économie pour assurer l'essentiel.
Alors oui, on peut le voir comme ça, même s'il y a d'autres manières de financer ces 18 mois de vie où potentiellement tu as cette baisse de revenus. Il y a plusieurs manières parce que tu peux effectivement avoir épargné en amont, avoir mis un peu de côté. Dans certains cas, tu peux aussi demander de l'aide, alors que ce soit de l'aide à l'État, parce qu'il y a quand même le système des ruptures conventionnelles hein, qui existe et qui permet de toucher le chômage pendant un certain temps. On dit parfois que Pôle emploi est le premier business angel de France, tu vois, qui permet de financer justement quand on monte sa boîte. Parfois, c'est le conjoint qui peut donner un petit coup de main. Et puis nous, ce qu'on conseille aussi beaucoup pour financer cette transition de vie, c'est en fait de rester quand même dans le job d'avant. Quand il y en a un, le plus longtemps possible et commencer à travailler en parallèle pour faire financer la nouvelle activité par l'ancienne. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire si vous êtes salarié, c'est évidemment si vos horaires vous le permettent, ce qui n'est pas du tout toujours le cas, hein, d'essayer de faire ça, commencer à lancer les choses le soir, le week-end, ou de vous mettre au 4-5e, diminuer votre temps de travail, ou de démissionner, mais de vous mettre en freelance, par exemple, pour avoir quelques missions en freelance sur lesquelles vous valorisez vos compétences d'avant et vous générez quand même un petit peu de revenus et en parallèle, voilà, encore une fois, avoir du temps pour relancer votre nouvelle activité. Mais l'idée, c'est de voilà, c'est d'essayer de générer un revenu le plus longtemps possible, y compris sur cette tranche de 18 mois que j'évoquais, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres aides de l'État, de la région, d'autres d'organismes auxquels on pense pas forcément?
Alors, si tu veux, il y a trois choses auxquelles il faut penser quand trois grands types de postes, on va dire, à financer quand on fait une reconversion. Donc, c'est évidemment le premier truc, c'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est sa vie, juste. Comment est-ce que je mange, je me loge, etc. etc. Donc, ça, je disais à l'instant comment on pouvait faire. Et là, je veux dire, l'aide principale qu'on peut avoir, c'est le chômage, hein, dans ces cas-là. Mais il y a aussi deux autres choses auxquelles il faut éventuellement penser. Même trois autres, je dirais. La première, c'est comment est-ce que, en amont même de ces 18 mois, avant de me lancer, je m'assure que mon projet est le bon projet, et donc je me pose les bonnes questions, et potentiellement je me fais accompagner. Et donc ça peut être justement un bilan de compétences. C'est aussi penser qu'éventuellement on peut avoir besoin de faire une formation. D'investir si on a un projet qui nécessite d'acheter du matériel, un lieu ou quoi, voilà. Et là, il y a différentes options qui existent, pas mal d'aides. Côté formation, je fais quand même un petit préalable qui me semble important, c'est que rares sont les gens, finalement, après le programme, à avoir démarré vraiment des nouvelles études ou des nouvelles formations qui sont longues et coûteuses. On n'a que 8% des gens qui font ça, qui se lancent dans une formation vraiment voilà longue, etc. Pourquoi ? C'est aussi parce que nous, on les pousse beaucoup à se former au maximum sur le terrain, à se former au maximum avec des formations courtes, avec ce qu'on appelle des MOOC sur Internet. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de ressources disponibles, soit carrément gratuitement, soit à faible coût. qui permettent aussi au moins de commencer à se former sans trop investir. Après, quand on a besoin de faire une vraie formation un peu longue, là, il y a des options donc qui existent, qui sont assez nombreuses, hein, d'aides d'État. Il y a ce qu'on appelle le CPF, le compte personnel formation. Alors ça, c'est l'ancien DIF, si ça vous parle. En gros, c'est une petite cagnotte que vous avez, une petite réserve que vous avez, dans laquelle vous pouvez piocher pour aller financer vos formations, et puis qui se renchérit tous les ans. Donc ça, c'est très très simple. Il suffit de télécharger une application qui s'appelle Mon Compte Formation, et là vous voyez dessus, avec votre numéro de sécurité sociale, je crois, combien vous avez. Donc ça peut être, j'en sais rien, 500, 1000, 2000 euros, et avec ça vous pouvez choisir des formations qui sont certifiées CPF, et vous pouvez financer vos formations comme ça.
Ça, c'est utilisable à vie.
Ouais, ça, c'est utilisable à vie. Alors, pour le coup, l'État a fait beaucoup d'efforts sur ce volet CPF, et donc c'est quand même un système qui fonctionne assez bien. Après, je sais qu'il y a aussi des aides encore plus structurantes, quelque chose qui avant s'appelait le CIF et qui maintenant a un nom un peu barbare, le PTP de transition professionnelle. Et ça, alors ça, c'est pour les salariés uniquement. Ça permet, en gros, de se former, souvent sur des formations un peu longues, effectivement, et pendant toute la durée de la formation, de continuer à être rémunéré par sa boîte, tout en ayant le droit de s'absenter de son travail. Donc ça, c'est un système qui fonctionne, qui peut fonctionner assez bien aussi.
Si la boîte accepte.
Exactement. Ouais. Si la boîte accepte, évidemment, c'est les limites. Après, pour les demandeurs d'emploi, il y a aussi pas mal de choses. Il y a des chèques formation, il y a l'aide individuelle à la formation, il y a un aide de retour à l'emploi. Et puis, quand on lance sa boîte, c'est là aussi où il y a énormément d'aide. Le sujet, en fait, c'est pas tant qu'il n'y ait pas d'aide, c'est plus de s'y retrouver dans tout ce bazar. Et il y a effectivement à la fois des aides de l'État, des aides de la région. Parfois même des aides au niveau de l'agglo ou de la ville de Paris, pour prendre l'exemple de Paris. Ce qui peut être pas mal quand même, c'est en général d'aller voir sur le site de BPI France, la Banque publique d'investissement, où ils ont quand même essayé de rationaliser, de faire un portail un peu unique en fonction du projet et des besoins. Ils sont capables normalement de redispatcher renvoyer vers les différentes aides possibles. Malgré tout, c'est quand même une jungle pas évidente à comprendre, quoi. Donc c'est pas si évident. Disons que c'est un investissement en temps. Voilà.
D'accord. Donc tu dis, finalement, on peut se former et réinjecter ces points CPF assez facilement en ligne, de plus en plus. En fait, il y a une offre qui est de plus en plus volumineuse,
qui est très foisonnante. Ouais. Et c'est de plus en plus facile d'utiliser en plus son CPF quand c'est possible pour financer ça, ou de se l'autofinancer, parce qu'encore une fois, on est sur des montants, notamment quand c'est à distance comme ça, qui sont... qui peuvent être finançables si on s'organise bien, quoi.
Est-ce qu'il y a un âge idéal pour se reconvertir, ou bien une configuration idéale ? J'imagine qu'être célibataire avec 3 enfants, c'est peut-être pas le top.
Clairement, je dirais que... En fait, c'est rigolo, parce que ce qu'on observe, nous, c'est que dans un processus de switch, on pense souvent être dans la pire situation. Les jeunes, en gros, se disent qu'il faut qu'ils commencent à mettre de l'argent de côté, ou qu'ils se construisent un CV, ou que voilà, qu'ils jouent aussi la carte de la sécurité, parce que c'est pas comme si ils étaient très sécurisés, justement, aujourd'hui. Ceux qui viennent d'avoir des enfants se disent, bah là, j'ai la responsabilité d'entretenir ma famille, c'est pas le moment. Ceux qui ont des enfants plus grands, ils se disent, il y a les études à payer. Ceux qui ont plus d'enfants, bah, il y a les retraites qui arrivent. Enfin, tu vois, t'as toujours ce truc où c'est très facile de se dire qu'on est dans la pire situation. Pour moi, c'est plus qu'il y a des moments de vie où il faut accepter aussi que peut-être effectivement c'est pas le bon moment. Moi, je suis convaincue que il faut pas vouloir trop en faire non plus, et vouloir tout faire en même temps. Par exemple, quand on vient d'avoir un enfant, qu'on a peu d'aide à côté, qu'on est très fatigué, que le conjoint bosse énormément, etc. Bon bah. Parfois, accepter de se dire, bon bah, mon projet de reconversion, je le décale d'un an ou deux juste pour avoir un peu plus d'énergie et le faire dans des meilleures conditions, ça vaut le coup. Après, quand on est dans une procrastination permanente et qu'on se dit que c'est jamais le bon moment, là, il peut y avoir un sujet. Et nous, on fait travailler là-dessus aussi, hein, chez Switch, parce que là, ça peut être juste des peurs qui s'accumulent et qui... Mais Mais voilà, la question du bon moment, c'est plus une question de est-ce que à ce moment-là, je sens que j'ai suffisamment d'énergie pour me poser les bonnes questions et pour mener un projet à bien. Mais après, c'est comme quand on se dit est-ce qu'il y a un bon moment pour avoir un enfant, tu vois. C'est en fait finalement souvent pas vraiment. Je sais plus où est-ce que j'avais lu cette étude, mais je crois que c'était une étude américaine. Qui posait la question « Combien est-ce qu'il vous faudrait pour vous sentir riche ?» Et en fait, il n'y avait pas la réponse à cette question, il n'y avait pas un montant, voilà, dire bah, à partir de, j'en sais rien, 50 000 par an, on estime qu'on est riche. La réponse moyenne, elle est complètement relative, elle est 1,5 fois le salaire des gens. Et donc, on estime toujours qu'on serait plus riche si on gagnait 1,5 fois plus que ce qu'on gagne. Mais le problème, c'est que quand on gagne 1,5 fois plus, ben en général, on se dit qu'il faudrait encore, tu vois, attendre le palier d'après. Fois, ouais. C'est sans fin, quoi.
Dans les couples, est-ce que tu observes que, dans le cas d'une reconversion, celui qui se reconvertit s'appuie souvent sur son conjoint ?
Mmh. En fait, moi, ce que j'observe dans les solutions que les gens mettent en place, c'est que c'est souvent un peu c'est hybride, c'est un peu un melting pot de tout ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un bout d'épargne, c'est un bout de j'essaie de rester dans mon job le plus longtemps possible pour financer le début de mon projet. C'est un bout de je m'appuie sur mon conjoint qui, pendant un temps, peut-être pourvoit un petit peu plus aux besoins du couple ou de la famille. Voilà. C'est un peu d'aide de l'État quand c'est possible. C'est un peu aussi de se dire comment est-ce que je revois un peu mes besoins à la baisse, mais pas forcément dans une logique de restriction, tu vois, négative, etc. Plus le côté sobriété positive, comment est-ce que j'utilise aussi ce temps et je profite de cette opportunité pour me demander de quoi j'ai vraiment besoin. Qu'est-ce que je dépense vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui peut être mis de côté pendant un temps en tout cas. Et ce travail-là, de poser les choses aussi, tu vois, très concrètement, très rationnellement, il est souvent très, très vertueux et il permet de mettre des chiffres là où au départ, souvent, tout est flou et donc on a l'impression que notre niveau de vie, on peut surtout pas y toucher, qu'il n'y a rien à faire. Non, en fait, il y a des marges de manœuvre. Il y a des sacrifices parfois à faire, mais parfois pas autant que ce qu'on imagine. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à se poser, à rationaliser tout ça, quoi.
Quand les gens coupent, ils coupent sur quoi, justement, dans cette sobriété positive ? Est-ce que tu as vu des foyers de dépenses comme ça qui ont été réduits de façon plutôt facile pour eux ?
Le sentiment que ça me donne, c'est que c'est plus sur toutes les dépenses un peu plaisir, on va dire, qui sont pas indispensables. Et ça, c'est très subjectif d'une personne à l'autre, mais c'est de se dire c'est quoi les choses sur lesquelles je suis prêt à renier et celles que j'aimerais vraiment, vraiment garder. Se dire, bah, quand c'est des gens qui avaient peut-être l'habitude de partir loin, de se dire, bah, en fait, là, on a déjà la chance de partir en vacances, et peut-être que dans les deux prochaines années, si on part en France ou pas très loin, il y a des coins magnifiques et ce sera amplement suffisant, tu vois, ce genre de choses.
Pour les individus qui savent qu'ils veulent changer quelque chose dans leur vie professionnelle, dans leur vie tout court, mais qui ne savent pas encore. Que faire exactement, qui sont pas encore, qui ont pas de forte intuition. Donc il y a plusieurs acteurs, il y a les bilans de compétences classiques, il y a des acteurs nouveaux comme vous, Switch Collective, il y en a pas mal d'autres. Ça coûte combien de se faire accompagner dans son processus de réflexion ?
Ce qu'on a observé, c'est que un accompagnement de ce type, c'est en moyenne entre 100 et 200 euros de l'heure. Donc pour un accompagnement qui peut varier en général entre 10 et 24 heures, il faut compter entre 1 300 et 2 500 euros.
quelque chose comme ça. Nous, pour te donner un ordre d'idée, notre programme en ligne, il est à 1499 €. Le programme présentiel, il est à 1999 €. Donc, on a un prix moyen de l'heure qui est inférieur à ce que je te disais là, aussi parce qu'on fait un programme en collectif. C'est un des avantages. Mais nous, on est plutôt à 70 € de l'heure. Voilà. Mais il faut compter, quel que soit, parce que comme tu disais, il y a beaucoup d'acteurs, entre 1300 et 2500 €. Après, on n'est pas obligé, bien sûr, d'en passer par là. Néanmoins, se lancer dans un projet comme ça, surtout quand il y a un vrai enjeu de reconversion un peu plus radical, c'est un risque par définition et c'est important. Enfin, ça a un coût, on l'a vu en plus. C'est important de se poser les bonnes questions en amont pour minimiser la perte, justement, en cas d'échec. Et du coup, l'idée, c'est de... En amont, d'apprendre à bien se connaître, à essayer de pas faire table rase de ce qu'on sait faire, justement, à bien explorer les différentes options, et surtout, dans un troisième temps, à tester. Et à se tester, à se dire, OK, j'ai identifié une piste ou j'ai une idée de projet qui me tient à cœur. Mais avant d'aller investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans ce projet ou dans cette piste, comment est-ce que je peux tester les choses de manière simple, rapide, à moindre coût, justement, avant de me lancer. On en reçoit de plus en plus dans notre programme, des gens qui arrivent chez nous en ayant fait un premier switch raté, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils se sont lancés dans une reconversion et qui se sont aperçus qu'en fait ça leur plaisait pas parce qu'ils s'étaient pas posé les bonnes questions en amont. Donc je pense à Xavier qui est arrivé chez nous. En fait, lui à la base il bossait dans un grand groupe agroalimentaire. Il a voulu devenir boucher, voilà, c'était une intuition comme ça, mais qu'il avait pas forcément pris le temps justement d'interroger concrètement. Donc et il s'est lancé, il a quitté son job, il s'est lancé dans une formation pour devenir boucher. Qui durait quand même, je crois, un an et demi. Et donc, bon, c'est quand même conséquent. Quitter son job, démissionner, payer cette formation, y consacrer du temps. Et en fait, au bout de 6 mois, il s'est rendu compte que ça lui convenait pas, que ça lui plaisait pas, qu'en fait, finalement, il trouvait le job assez répétitif, que les horaires, travailler le week-end, travailler tard le soir, etc., que c'était pas compatible, finalement, avec ses aspirations, ses envies. Et donc, il est parti. Alors, c'est pas grave, il est reparti sur autre chose et tout, mais c'est dommage parce que je pense que en testant les choses avant, ce qu'on lui aurait fait faire, par exemple, c'est de lui dire, écoute Xavier, excellente idée. En revanche, va à la boucherie du coin là à côté de chez toi et va leur demander si tu peux passer le week-end prochain du temps derrière le comptoir avec eux pour voir vraiment comment ça se passe et si ça te plaît. C'est ce qu'on avait. Enfin, en tout cas, c'est une étape par laquelle on fait passer systématiquement nos participants. Cette étape de se dire comment est-ce que je teste simplement à moindre coût avant d'investir du temps, de l'argent, de tout envoyer valser, c'est hyper, hyper important.
C'est marrant, moi j'aurais pensé que pour se tester, il aurait fallu passer par un organisme qui te propose de tester moyennant finance. Soit tu dis, mais non, en fait, tu vas taper à la porte de n'importe qui. Ouais. Bon, et tu demandes, il dit oui, il dit non, et puis basta.
Ouais, et tester, c'est à la fois... on peut tester de plein de manières différentes, avec des degrés d'intensité, on va dire, différents. Carrément, en allant passer du temps, effectivement, avec quelqu'un qui fait le job en question, voilà, ça, c'est vrai que c'est très efficace. Mais avant ça, on peut même commencer à se tester, par exemple, en commençant à se former, même ne serait-ce que via des lectures. Je pense à Noémie qui faisait notre programme aussi, qui se dit tiens, puis c'était, je me souviens à l'époque, c'était le grand moment de un peu la mode des entreprises agiles, les entreprises libérées, les entreprises agiles, etc. Et c'était un sujet qui l'intéressait a priori, et elle s'était dit tiens, compte tenu de mes appétences, mes compétences aujourd'hui et tout ça, j'aimerais bien devenir coach en entreprise pour justement entreprises libérées, etc. Du coup, on lui a dit commence déjà par te former sur le tas avec ce qu'il y a dispo et par lire ces 3 bouquins qui sont un peu les références sur ce sujet-là. Et en fait, elle n'a pas réussi à venir à bout des 3 bouquins. Pareil, en essayant de se former un peu avec même des vidéos YouTube, etc. Au bout d'un moment, le sujet l'a lassée.
Tu vois, et c'est tout bête parce que en fait elle s'est rendue compte que oui c'était un sujet qui l'intéressait, mais peut-être pas suffisamment pour se dire qu'elle avait envie d'en faire son métier. Et ça, elle s'en est rendue compte juste en voilà, en essayant de se former de manière très simple sur le tas. Et déjà, on peut sentir des choses très très concrètes, quoi. C'est toujours ce truc aussi de se dire. Ça ne viendrait pas à l'idée d'aller acheter une maison très chère dans un endroit complètement différent de ce dans quoi tu as vécu jusqu'à maintenant, sans justement avoir peut-être loué dans cet endroit pour être sûr que cette région te plaît avant d'aller mettre plusieurs centaines de milliers d'euros, tu vois, dans un logement. C'est un peu pareil, quoi.
Donc, en général, les gens qui se reconvertissent, tu sens on observe un mieux-être après le changement porte ses fruits.
Oui, en tout cas pour les gens. Là, je vais parler pour voilà ce que j'observe sur le terrain. Les gens qui passent par chez nous, bah, par définition, a priori, si on fait bien notre boulot, on les a accompagnés, ils se sont posés les bonnes questions, et donc leur projet de switch, comme je te disais, il aboutit positivement dans 90% des cas. Et donc clairement, il y a un mieux-être, une amélioration de la qualité de vie. De l'équilibre de vie aussi, souvent, parfois. Donc, c'est très positif. Après, ce que j'observe, parce qu'évidemment, je suis très attentive à tout ça, c'est que, à l'inverse, quand on ne s'est pas posé toutes ces bonnes questions en amont, il peut y avoir beaucoup de désillusions. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend tellement parler de reconversion partout, ça a l'air tellement facile. Voire même, il y a un peu un côté, si tu t'es pas reconverti avant 40 ans, t'es un peu un loser, quoi, tu vois. Que voilà, parfois on se lance comme ça en se disant, ah, c'est facile, on a l'impression que tout le monde peut devenir ébéniste. Bon, voilà. C'est pas si simple. C'est beaucoup d'efforts. C'est un vrai investissement, comme je disais, en temps, en argent. C'est pas à prendre à la légère. Et quand on prépare pas assez son projet, il peut y avoir des désillusions sévères, quoi. Et on commence à en parler, hein. Je commence à voir un peu des articles, et je trouve ça très bien d'ailleurs, des articles de presse qui sortent pour dire ils ont fait ci, ça, et en fait ils en reviennent, ça n'a pas marché.
Ils sont retournés bosser à la Défense.
Et exactement, il y a notamment un type de métier, parfois où les gens ne réalisent pas ça, nous on essaie vraiment de mettre en garde contre ça, tu vois, c'est tous les métiers... par exemple, les métiers de service, ou quand tu dis bah je vais devenir coach ou acupuncteur ou
naturopathe,
voilà, tu en entends beaucoup parler. En fait, souvent, ce que les gens oublient sur des métiers comme ça, c'est que ils voient que la pratique. Ce qu'ils voient un peu moins, c'est que faire ce métier-là, c'est aussi et avant tout être entrepreneur, en fait, au sens d'être capable d'aller chercher des clients. Et donc d'être capable de se vendre, c'est triste à dire, hein, mais c'est voilà, c'est nécessaire de se vendre, de parler de soi, de se mettre en avant, d'aller chercher les bons clients. Et en fait, ça, c'est quand même des compétences qui sont indispensables, qui sont pas évidentes et qui parfois conviennent pas du tout. Mais c'est ça aussi la réalité d'un métier. Pareil quand t'es photographe, quand à un moment donné. Si tu veux en vivre, si tu veux en faire ton métier, parfois il faut pas forcément en faire son métier, hein. Parfois il faut que ça reste une passion à côté et c'est très bien comme ça.
Est-ce qu'on peut estimer le coût moyen d'une reconversion ?
Il peut pas y avoir d'absolu là-dessus. Pour moi, le coût moyen, il dépend de ton niveau de vie avant ta reconversion. Il dépend de ton rapport à l'argent et il dépend du projet que tu veux faire. Et pour moi, il vaut mieux raisonner en temps. Pour se poser les bonnes questions, définir le bon projet, je dirais c'est entre 2 et 6 mois. Et ensuite, pour mener à bien le projet, c'est, je te dis, en moyenne 18 mois. Bon, tu mets ça bout à bout et si tu raisonnes plutôt en temps et que tu dis, ok, moi, c'est quoi mon niveau de vie, c'est quoi, après, tu fais des petites multiplications et t'arrives sur le bon coût. Mais je préfère parler en temps moyen qu'en coût moyen. Je pense que c'est plus pertinent.
Et ne pas se reconvertir alors qu'on en a envie, est-ce que ça a un coût ?
Je pense que c'est important aussi de prendre en compte le coût de ne pas se reconvertir, parce que dans certains cas, ça a un vrai coût. Ça a un coût d'opportunité parce qu'on se prive de potentiellement plus de bien-être, plus de sens, et que ça n'a pas de prix. Hein. La ressource la plus précieuse, non renouvelable, qu'on a, c'est le temps, c'est notre temps. Et si tu passes du temps à faire un truc qui te convient pas, qui t'épanouit pas, qui t'épuise, qui te vide, à la fin de ta vie, c'est terrible, le coût de ça. Et ça peut même devenir d'ailleurs le coût d'un burn-out. Hein. Malheureusement, en 6 ans, tu vois, depuis qu'on s'est lancé, on en voit de plus en plus dans nos promos. On a de plus en plus de gens qui nous contactent après un burn-out. Et un burn-out, c'est un vrai coût. C'est moins de revenus potentiellement parce que pendant le temps où on est en arrêt, on n'a pas de rémunération variable par exemple, parce que parfois la sécurité sociale prend pas tout en compte, parce qu'on peut se retrouver placardisé, parce que surtout évidemment on a des problèmes de santé, que ça a un coût sur sa vie sociale, la vie familiale, et ça c'est lourd, c'est très très lourd. Donc de pas en arriver à cette extrémité là et d'impulser des changements avant de tomber dans un truc comme ça, c'est, je pense, très important.
Tu penses quoi de l'expression « investir sur soi » qui est très à la mode en ce moment ?
Je pense que, à la fois, c'est effectivement nécessaire, surtout dans le monde dans lequel on vit. C'est important de se dire, d'être conscient du capital, justement, de compétences, de connaissances, de réseaux qu'on a déjà, et de se dire comment est-ce que ce capital, je le développe, je le fais grandir, parce que aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on obtient plus facilement un job, c'est comme ça qu'on monte plus facilement une boîte. Donc ça me semble indispensable. Après, je suis jamais très à l'aise avec l'idée, même cette idée d'amélioration permanente de soi, l'impression qu'on peut mener sa vie comme une start-up, comme une boîte, avec des KPI, des key results là, qui sont censés... la vie, c'est pas une suite de chiffres, d'investissements qui donnent ensuite un retour sur investissement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a plein de choses qui sont pas mesurables. Et je regrette, et en tout cas, nous, on alerte aussi beaucoup de faire attention à pas tomber dans une recherche de productivité permanente, d'efficacité permanente. Je trouve que ça met une pression, en fait. Sur les gens, ça nous donne l'impression que qu'on n'est plus même plus vraiment des individus, mais juste des agents de travail qui contribuent à un système de travailler toujours plus pour consommer toujours plus. Et ça, je pense que c'est très très délétère et pernicieux à l'échelle individuelle, parce que ça fait, en fait ça génère de la souffrance, de la frustration, parce que on devient éternellement insatisfait. Et je pense que c'est très pernicieux aussi à l'échelle collective, parce que ça nous fait pas aller dans le bon sens. Ça met trop de pression et ça fait pas se poser les bonnes questions collectivement de là où il faut qu'on investisse du temps, notamment avec tous les changements qu'il faudrait qu'on réussisse à impulser dans le monde actuel, avec la crise climatique, la crise sociale, etc., etc.
Merci Clara Delletraz.
Merci Laurence.
Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli et monté par Manuel Dedonder. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.